Le journal avec vous, Nicolas Crozel, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. À la une ce matin, les premiers effets du plan de relance de septembre dernier. Reportage dans un instant en Normandie, dans une entreprise de l'industrie pharmaceutique qui relocalise une production que la France avait abandonnée à la Chine. Face à la quatrième vague de Covid, la seule issue, dit le gouvernement, c'est le vaccin. Dans ce journal, vous entendrez le coup de gueule des médecins généralistes obligés d'annuler des rendez-vous faute de livraison de flacons de Moderna. Au menu également, le Liban, un an après la gigantesque explosion dans le port de Beyrouth. De nombreuses familles n'ont toujours pas retrouvé leur logement. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo et peut-être tout à l'heure le retour de la gymnaste américaine Simone Biles pour la finale de la poutre.
Dans un quart d'heure, notre invité Nicolas Bedos, en réalisateur, le grand retour d'OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire au ciné demain, avec Jean Dujardin, toujours dans le rôle titre, aussi macho, réac et raciste, prendre les chaussons d'Azanavicius, 12 ans après le dernier volet, tourner OSS après MeToo, pas trop la pression, on lui posera la question. Nicolas Bedos au micro France Inter, dans 15 minutes.
France Inter.
Les milieux économiques observent de très près la quatrième vague de Covid. Il faut à tout prix éviter un nouveau coup d'arrêt, alors même que les premiers effets du plan de relance se font sentir. 100 milliards d'euros injectés dans l'économie il y a moins d'un an. Parmi les objectifs, sauver des emplois en relocalisant des industries qui avaient disparu de notre pays. C'est le cas de la fabrication d'un excipient pharmaceutique à base d'algues qu'on trouve dans certaines capsules de médicaments. Ces dernières années, les algues étaient extraites au Chili et transformées en Chine. Mais cette petite société Holopharm, basée à Évreux en Normandie, va se lancer dans cette production grâce aux 600 000 euros de subventions qu'elle a touchées de l'État. Une entreprise que vous avez visitée, Thibault Lefèvre.
Jusque-là, ils étaient 6 ingénieurs en biochimie à travailler uniquement sur la recherche et le développement pour l'industrie pharmaceutique.
T'es monté à combien de degrés ?
45, je crois.
Avec la toute nouvelle activité, ils seront d'ici quelques mois, 3 de plus, 2 opérateurs et une nouvelle ingénieure, Audrey.
C'était pas gagné.
À 26 ans, elle vient tout juste de terminer son stage de fin d'études.
C'est un vrai challenge. J'ai quand même cette chance au final, en sortie d'école, d'être tout de suite embauchée. Ça montre aussi que on a les compétences en France de le faire, donc faisons-le quoi.
L'équipe s'agrandit donc, et les locaux aussi.
Ça va être une extension de ce bâtiment. On enlève tout ce qui est ici pour construire ensuite le bâtiment nécessaire à la production de cet excipient.
Le patron Pierre-Marie Blondin a désormais moins d'un an pour mettre sur pied et équiper 2 ateliers spécialisés pour un coût d'un peu plus d'1 million d'euros, soutenu pour moitié par le plan de relance.
C'est toute une filière qui va pouvoir repartir, donc avec des marins pêcheurs qui vont récolter ces algues, avec une filière aussi qui est liée à la transformation. Il aurait été dommage de ne pas pouvoir reprendre les rênes de nos propres productions.
11 tonnes d'excipients à base d'algues doivent sortir tous les ans des ateliers d'Holopharm. Elles sont exclusivement destinées à la production pharmaceutique implantée en France.
Reportage Thibault Lefèvre sur le front sanitaire. La Guadeloupe n'échappe donc pas au reconfinement après la Réunion et la Martinique. Dès demain soir, 20h et pour au moins 3 semaines, les déplacements sur l'île Papillon seront limités à un rayon de 10 km. Couvre-feu de 20h à 5h du matin, fermeture totale des bars. En revanche, les restos pourront rester ouverts le midi, mais seuls les clients détenant un pass sanitaire pourront venir déjeuner. L'Agence régionale de santé évoque une situation catastrophique avec 3000 cas par semaine, un taux d'incidence qui dépasse les 800 cas positifs pour 100 000 habitants et toujours très peu de vaccinés. Moins d'un habitant sur 5 a reçu ces 2 injections. L'Agence régionale de santé lance un appel aux soignants de métropole ou d'ailleurs pour venir en renfort sur l'île. Sur l'ensemble du pays maintenant, l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50 millions de premières doses d'ici la fin du mois. On en est ce matin à près de 43 millions, ce qui fait plus de 63% de la population. Et pour atteindre ce chiffre, cette barre des 50 millions, il y a les grands centres de vaccination, les vaccinodromes, mais certains non-vaccinés ont peut-être des réticences à s'y rendre. Voilà pourquoi les médecins généralistes ont aussi leur rôle à jouer. Le médecin qu'on connaît, celui qui nous suit, nous conseille, peut par exemple injecter du Moderna. Encore faut-il qu'il reçoive des doses à son cabinet. Le syndicat MG France dénonce des soucis d'approvisionnement. Exemple avec ce médecin généraliste de 7 dans l'Hérault, qu'Alice Cachaner a rencontré.
Chaque semaine, le docteur Jean-Christophe Calme reçoit, en théorie, un flacon de Moderna pour vacciner ses patients. Mais depuis quelque temps, les livraisons sont un peu aléatoires.
La semaine dernière, nous avions, mes associés et moi, réuni 40 patients pour les vacciner. Et on a appris, le mardi, que nous n'aurions pas les vaccins parce qu'il y avait du retard dans les livraisons. On avait déjà pris la peine de les convoquer, de leur dire « venez tel jour, telle heure ». Il a fallu que notre secrétariat perde 2 ou 3 heures de boulot pour annuler tous ces rendez-vous et les reconvoquer cette semaine.
Des témoignages comme celui-ci remontent de tous les départements, souligne ce praticien du syndicat MG France.
Si j'étais le seul, je me dirais, bon, c'est un incident, ça peut arriver. Le problème, c'est que la situation est la même, France entière. C'est partout pareil. Et on a de plus en plus de médecins qui arrêtent de vacciner à cause de ces problèmes d'approvisionnement.
Une situation frustrante pour ce médecin qui estime que les généralistes ont un rôle important à jouer, notamment face aux réfractaires.
Alors, des fake news, c'est dans les cabinets médicaux que tout ça se dénoue et que nous arrivons à convaincre nos patients que ce qu'ils ont lu sur Internet était erroné et qu'il faut se vacciner. Ne pas nous donner cette possibilité, c'est dommageable, vraiment.
Une livraison de 8 millions de doses de Moderna est prévue au mois d'août, mais on ignore encore quelle sera la répartition entre centres de vaccination, pharmaciens et médecins généralistes.
Un reportage d'Alice Cachaner. La stupeur et la colère des habitants de Stain en Seine-Saint-Denis après la découverte dimanche matin de plusieurs tombes profanées dans le cimetière. Depuis 2 jours, les familles défilent sur place pour constater les dégâts. Le reportage de Mathilde Dehimi.
Elles ont plutôt l'habitude d'être seules ici, Christiane et René.
J'ai appris ça hier soir, j'ai pas dormi de la nuit. Du dégoût, de la colère. On touche pas à un mort, on touche pas à un cimetière.
Ils ont le respect de rien du tout.
Autour d'elles, ils sont nombreux à venir vérifier exceptionnellement l'état de leur tombe, comme Brigitte et Claudine.
Est-ce qu'il y a eu des dégradations sur ta tombe ?
Non, c'est un deux tombes, non, il n'y a rien.
C'est gratuit, quoi.
Oui.
Bah, ça fait mal, ça fait mal. Oui,
Bernard a 3 membres de sa famille enterrés ici, dont un récemment mort du Covid.
Nous, c'est de la famille qui nous ont dit d'aller vérifier pour voir si les tombes n'étaient pas touchées. On n'est pas concerné. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas courant, disons ici.
Les dégradations sont éparses, sans vraiment de logique et touchent plusieurs communautés religieuses.
Il n'y avait quasiment plus rien, tout était éparpillé autour de la tombe. C'était complètement dévasté.
Stéphane Lagrive, l'adjoint de permanence ce week-end.
Nous allons voir comment on peut sécuriser davantage le cimetière et ses accès. Il y a des choses à l'étude pour surélever ces murs. Ça pourrait peut-être déjà permettre un accès plus dissuasif.
La mairie a porté plainte, aucune inscription n'a été relevée. Certaines tombes éventrées datent de dégradations précédentes, selon le gardien.
7h37, une journée de commémoration au Liban. Demain, ça fera 1 an après l'explosion sur le port de Beyrouth.
Oui, une déflagration qui a ravagé une partie de la capitale libanaise. Plus de 200 morts, 6500 blessés, 350 000 Libanais qui ont été d'une manière ou d'une autre touchés. 1 an plus tard, où en est la reconstruction? Eh bien, ça n'avance pas vite. La majorité des habitants qui ont quitté leur logement n'ont pas encore pu retourner chez eux. Aurélien Colli, vous êtes allé à la rencontre d'une famille.
Le 4 août 2020, à 18h07, Norma était chez elle, en face du port, avec son père de 79 ans.
Il était là-bas et la vitre est venue sur la tête. Il est mort.
1 an après, Norma est encore traumatisée. Les mêmes images de chaos qui reviennent sans cesse dans sa tête, comme son frère Philippe qui vivait juste à côté.
Les femmes pleuraient, les enfants pleuraient, des morts, des blessés, des choses horribles.
Aujourd'hui, Philippe habite chez sa sœur, Norma, avec un autre frère, Élie, car c'est la seule dont l'appartement a été reconstruit.
Heureusement que les associations, ils nous ont aidés directement.
Vous n'avez pas reçu d'aide du gouvernement ?
Non, pas du tout.
3 lits, 2 canapés, 1 table basse, c'est tout ce que possède aujourd'hui la fratrie, avec le stock d'électroménager de leur boutique, rouverte malgré les destructions.
No customers. Nobody came back.
Il n'y a pas de clients, les habitants ne sont pas revenus. Pour avancer, on a besoin de justice, réclame Élie, devant une cousine qui passe régulièrement les soutenir.
Ils ont détruit le cœur du Liban. Les immeubles anciens, les souvenirs, tout ça, on les a perdus. Il n'y a pas d'espoir. Au moins la justice pour tous ces gens.
Mais au Liban, la justice est comme l'État, otage de responsables politiques et sécuritaires corrompus, au courant de l'existence du stock de nitrate dans le port, mais qui refuse toujours d'être entendu par le juge chargé de l'enquête. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
En Iran, c'est aujourd'hui qu'est officiellement installé le nouveau président Ebrahim Raïssi, élu en juin dernier. Cérémonie d'investiture dans un climat tendu avec les Occidentaux, notamment l'attaque par drone d'un pétrolier israélien en mer d'Oman la semaine dernière. Bilan 2 morts, un Britannique d'une compagnie de sécurité et un Roumain membre d'équipage. L'Iran est accusé par Israël et les États-Unis d'être derrière cette attaque. Téhéran dément toute implication. Direction Tokyo à présent, où on retient de la nuit côté français au JO la qualification des Bleus pour les demi-finales du tournoi de hand après une nette victoire 42 à 28 face à Bahreïn. La déception en revanche en plongeon pour Alexis Jandard, privé de finale, tout comme pour le kayakiste Étienne Hubert. Parmi les temps forts également, le 400 mètres est remporté il y a quelques minutes par le Norvégien Carsten Warholm. Et puis, côté français, toujours la plus grande chance de médaille. Ce sera à 12h20. Tout à l'heure, Renaud Lavillenie à la perche. On suivra également les quarts de finale en basket et en volley. Et on regardera attentivement la gymnastique et la finale de la poutre. Ce sera un peu avant 11h, heure française. Bonjour Farida Noir.
Bonjour.
On regardera attentivement parce que Simone Biles, l'immense gymnaste américaine qui a déclaré forfait jusqu'ici, n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Et oui, alors qu'on n'y croyait plus, c'est donc le comeback de Simone Biles après 4 finales individuelles manquées où elle avait déclaré forfait. La dernière fois qu'on l'a vue sur un agrès, c'était mardi dernier, il y a tout juste une semaine donc, après son saut de cheval mal maîtrisé. Pour l'expliquer, eh bien, la gymnaste active sur les réseaux sociaux explique qu'elle a des démons dans la tête, qu'elle ne maîtrise plus ses figures, que sa tête et son corps ne sont plus synchronisés. Mais elle est donc de retour aujourd'hui, en tout cas elle est inscrite pour la finale de la poutre à l'Ariake et tous les yeux seront braquée sur la Texane encore plus que d'habitude, elle qui a du mal à gérer la pression. Simone Biles n'était pas parvenue à s'imposer sur cet agrès aux Mondiaux de Doha en 2018. Elle avait dû se contenter du bronze. Tout à l'heure, il lui faudra donc maîtriser son équilibre et ses démons pour décrocher une médaille. Si elle y arrive, ce sera sa deuxième après celle du concours général par équipe, loin des 6 qu'elle s'était fixée pour objectif en arrivant à Tokyo.
Peut-être donc le retour de Simone Biles tout à l'heure à la finale de la poutre. Merci Farida Noir. C'est à partir de 10h50, heure française, à Tokyo.
Et merci à vous, Nicolas Crozel, pour le journal 7h41, l'édito Écho. Nous accueillons Renaud Honoré ce matin. Bonjour Renaud.
Bonjour Hélène.
On essaye de trancher avec vous une question presque philosophique, à savoir, est-ce que le travail paye ?
Eh bien Hélène, je ne suis pas certain d'être le plus compétent pour vous donner une réponse philosophique. Je crois que de toute façon, le créneau est déjà pris cet été sur Inter par Charles Pépin.
Tout à fait.
Mais en tout cas, d'un point de vue économique, le travail paye un peu plus désormais après 5 années de réformes menées par François Hollande puis Emmanuel Macron. C'est ce qui ressort en fait d'une étude récente de l'INSEE qui n'a pas fait grand bruit alors qu'elle concerne pourtant le quotidien de millions de personnes en France. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, les économistes de l'INSEE ont calculé très précisément ce qui se passait quand une personne voyait ses revenus augmenter. Je ne vous apprends rien, vous n'êtes jamais gagnant à 100%. Vous êtes souvent amené à payer plus d'impôts et de cotisations. Et puis parfois, cette hausse de revenus vous fait perdre certaines prestations sociales auxquelles vous aviez droit. Et tout ça varie bien entendu selon votre situation familiale ou le statut de votre emploi. Alors voilà, donc tout ça est assez complexe, mais on voit depuis quelques années une tendance se dessiner. La part de ce qui reste dans votre poche est plutôt en hausse. Alors c'est léger pour les personnes déjà en emploi qui sont augmentées, mais c'est bien plus net pour celles qui reprennent un emploi. Pour ces dernières, le taux de prélèvement social et fiscal marginal s'est réduit de 6 points entre 2014 et 2019 et s'établit désormais à 44%. En clair, le retour à l'emploi paye bien plus qu'avant.
Alors est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène ?
Alors l'une des raisons tient à une réforme qui n'a pas fait la une des journaux, loin de là, mais qui concerne désormais près de 10 millions de personnes, la prime d'activité. Alors cette prime, c'est une prestation que les salariés modestes peuvent recevoir en plus de leur salaire. Ça avait été créé par François Hollande en 2016, et une fois au pouvoir, Emmanuel Macron a amplifié l'effort. Il avait notamment décidé d'augmenter fortement le montant en réponse à la crise des Gilets jaunes. Et bien tout ça a eu des effets très concrets sur le porte-monnaie des salariés et de ceux qui retrouvaient un emploi. De quoi renforcer l'incitation au travail, qui est une obsession des différents gouvernements depuis au moins 20 ans.
Ça veut dire quoi Renaud, qu'on est au bout des débats autour du sujet aujourd'hui ?
Pas vraiment, et d'ailleurs on voit bien que le travail et sa rémunération devraient être parmi les thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Lors de son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé la couleur en érigeant le travail et le mérite, je le cite, en priorité, avec notamment la réforme des retraites en ligne de mire. Bon, on le sait, à droite, c'est également une thématique traditionnelle. Et à gauche, Anne Hidalgo a avancé récemment un premier slogan de sa possible campagne, « Travailler mieux pour vivre mieux ». Donc on le voit, la question reste centrale et elle l'est d'autant plus après une crise sanitaire durant laquelle on a beaucoup parlé de boom du télétravail, de rémunération des salariés de la première ligne. Une crise dont finalement, on mesure encore mal les effets sur le travail.
Alors, l'édito Écho, journaliste aux Échos, Renaud Honoré ce matin avec nous. Merci beaucoup. À suivre, Nicolas Bedos, invité de la matinale.
le 6-9. Hélène Roussel sur France Inter.
Notre invité est metteur en scène, acteur, chroniqueur, humoriste, césarisé pour son film La Belle Époque, et il a osé dire oui. Grâce à lui, OSS 117 revient, présenté en clôture du Festival de Cannes. Il débarque au cinéma ce mercredi. Bonjour Nicolas Bedos.
Bonjour.
OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, toujours avec Jean Dujardin, dans le rôle du pitoyable espion, aussi franchouillard que crétin. Troisième volet, 12 ans que les fans attendaient ça. Vous avez mis les chaussons du réalisateur, hein, Michel Hazanavicius, qui a pour les deux premiers rassemblé plus de 4 millions de spectateurs. Ça met un peu la pression quand même, Nicolas Bedos. Ça vous a pas foutu la trouille?
Mais bien sûr que oui, mais la trouille, c'est aussi de l'excitation. J'ai énormément de coups à prendre dans tout ça, parce que Hazanavicius est un réalisateur brillant, il a fait des choses magnifiques. C'est un fantôme très dangereux au-dessus de ma tête.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce défi?
Bah justement, la pression, l'envie de...